الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Premièrement, donc avant de continuer le cours, on va parler de quelque chose qui a rapport avec le cours. C'est-à-dire, j'étais dans un repas, quelqu'un il me dit qu'il parlait avec un jeune. Et ce jeune, il s'intéresse à l'islam. Et elle lui a posé une question, la personne n'a pas su répondre. Elle lui a dit, pourquoi l'islam, ça serait vrai, alors qu'auparavant, il y a eu le judaïsme et le christianisme. C'est-à-dire que l'islam n'existait pas. Et avant, il y a eu le judaïsme, après il y a eu le christianisme, donc l'islam c'est nouveau. Donc comment ça peut être vrai? La question, elle est intelligente. Est-ce que ça veut dire que pendant des milliers d'années, les gens ils connaissaient pas le haq? Ou alors qu'il y avait le haq, mais il n'était pas comme l'islam? Donc comment le haq il peut changer? Donc la réponse, bon, je pense que vous, qui peut me répondre à cette question? Hein? Ouais, comme vous voulez. Arabia, le francia, chez le haq, et quelqu'un y traduit. Non. C'est simple la réponse. C'est que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Depuis le début Adam, les gens ils étaient que sur l'islam. C'est-à-dire tous les prophètes depuis Adam, ils étaient sur l'islam. Donc l'islam il a toujours existé. Il n'a pas été précédé par le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme et le christianisme, c'est des noms qu'on a donnés aux religions que les juifs et les chrétiens ils pratiquent, alors qu'elle a été abrogée. C'est-à-dire les juifs encore maintenant ils pratiquent une religion en suivant un peu de la Torah qu'Allah il a révélée, alors que ça y est, ils devraient suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'ils font eux, on l'appelle le judaïsme. Est-ce qu'on dit le judaïsme c'est une religion qu'Allah a révélée? Non. C'est un reste, c'est un mélange entre ce qu'Allah il a révélé et ce que les juifs ils ont encore envie de pratiquer. Et pareil pour le christianisme. Mais la religion de Moïse, donc Moussa, et de son peuple, c'était l'islam. Et la religion de tous les Bani Israël, c'était l'islam. Et la religion de Isa, c'était l'islam. Donc, Yanné, la réponse, elle est simple, mais c'est grave que quelqu'un ne sache pas répondre à ça. Et en plus, c'est un jeune, il n'a pas su répondre. Ça fait partie des fondements de l'islam. Yanné, ne pas connaître ça, c'est ne pas connaître sa religion. Par contre, ça, c'est vrai. Cette question, nous, on peut la poser à qui? En particulier, à un chrétien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, ce qu'on appelle da'awat tansir, elle est très répandue, que ce soit dans certains pays du Maghreb ou en France, à tel point que maintenant des gens ils s'appelaient Mohamed et maintenant ils s'appellent Antoine. C'est-à-dire ils se convertissent au christianisme. Et les évangélistes ou les témoins de Jéhovah, ils font beaucoup de da'awat. Ils peuvent venir à vos portes discuter avec vous. Donc pour discuter, il faut connaître. Ou pour parler à quelqu'un de sa famille qui est parti avec eux, il faut savoir de quoi ça parle. Eux, on peut leur poser la question. Si ce que vous dites c'est vrai, alors qu'est-ce qu'ils ont fait tous les êtres humains avant Isa? Pourquoi? Parce que eux ils disent que Isa c'est le fils d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Donc Allah soit élevé au-dessus de ce qu'ils disent. Donc et que Allah, donc en fait ça dépend de leur explication. Ils disent c'est le fils d'Allah, mais c'est Allah en même temps. Donc qui est descendu sur terre pour goûter la souffrance comme les hommes y souffrent. A'udhu billah. Donc le fait de raconter ça, ça c'est écœurant, mais c'est pour savoir ce qu'ils disent. Et ils disent que, en fait, pour être sauvé, il faut accepter Isa comme sauveur. C'est-à-dire que donc Isa, comme ils disent Jésus, lui, il porte les péchés de tout le monde, à condition que tu le reconnaisses comme tel. Si tu reconnais que c'est lui le sauveur, ben il va te sauver. Il va porter tes péchés. Si tu reconnais pas, tu vas aller en enfer. Et c'est le fils de Dieu, ou alors c'est Dieu, enfin c'est à la fois le fils de Dieu et Dieu. Ça c'est incompréhensible, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Donc eux, on peut leur dire, si c'est vrai, donc Moussa, alayhi salam, il n'avait pas une foi complète, puisque Moussa, il n'a pas connu donc le fils d'Allah. Puisque Moussa, tel qu'il est décrit dans le Coran, et tel qu'il est décrit dans leurs écritures, il parlait de qui? Il parlait d'Allah, c'est tout. Pas d'Allah et du fils. Donc ça veut dire que Moussa et tous les prophètes avant Isa, ils n'avaient pas une croyance complète. Puisque c'est comme si, par exemple, on dirait quelqu'un, il est musulman, mais il ne connaît pas qu'Allah, il s'appelle Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Wahid, Al-Qahar, etc. Sa croyance, elle est complète ou pas? Elle est incomplète. Il ne connaît pas Allah comme il faut. Donc eux, ils disent que Allah, c'est à la fois Allah et Isa, et son fils qui est descendu sur la terre pour sauver les gens. Donc ça implique que tous ceux qui sont passés à Isa, eh ben Masakin, ils n'ont pas connu le sauveur, et ils n'ont pas connu Allah comme il est réellement, puisque pour eux, Allah, il est trois, alors que tous les prophètes auparavant, comme c'est écrit dans la Torah, ils parlaient que d'un Dieu unique. Ils n'ont pas dit il est divisé en trois. Ils parlaient d'un Dieu qui est éternel. Donc ça, c'est une question, la question que le jeune il a posée aux frères. Cette question, elle est bonne à poser aux chrétiens. Quand le chrétien il vient et te dit, il faut accepter Jésus comme sauveur, tu dis, admettons, bah alors Moussa alayhi salam, qui était un prophète, il n'a pas connu ça. Le fait que Isa c'est le fils d'Allah et que c'est le sauveur, etc. Comment ils faisaient eux à l'époque? Et s'il te dit, bah vous, Moussa il n'a pas connu Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, c'est pas la peine. Moussa, à son époque, il a reçu la révélation. Et c'est la même chose que ce que Mohammed, il a reçu, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque être humain sur terre, à son époque, il a eu un prophète. Donc, même s'il n'a pas vécu à notre époque, il n'a pas connu Mohammed, il a connu un prophète venant d'Allah à son époque. Et donc, il a connu l'islam, comme il est, comme Allah veut. Et il a connu Allah. Parce qu'Allah, il s'est révélé à tous les prophètes. C'est-à-dire, quand je dis s'est révélé, c'est-à-dire, il leur a appris ses noms, ses attributs, ses droits, etc. Al-Tawhid, le monothéisme, le fait qu'il faut adorer Allah seul et pas lui associer. Donc cette question, ils ne peuvent pas la tourner contre nous. En disant, bah, ceux d'avant, c'est pareil, ils ne connaissaient pas l'islam. Nous, on répond si, ils connaissaient l'islam. Parce que l'islam, c'est adorer Allah seul en suivant le prophète qui a été envoyé à l'époque où je vis. Donc moi, comme je vis en 2009 et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé il y a beaucoup d'années, il y a 600 ans, il y a 14 siècles, pardon, et que c'est le dernier des prophètes, et ben moi, l'islam, c'est que je dois adorer Allah et suivre Mohammed. Et ceux qui étaient à l'époque de Moussa, ils devaient suivre Moussa. Et c'était la même religion, avec seulement des règles qui changent, parce que c'était pas la même époque et c'était pas le même endroit. Voilà. La législation, elle change. Ce qu'on appelle Sharia. Par exemple, peut-être ils n'avaient pas le même nombre de salat à faire. Pas la même zakat à donner, pas le même jeûne à faire, mais sinon la base de leur religion c'est la même. Il faut adorer Allah, c'est-à-dire du'a c'est pour Allah, la prière c'est pour Allah, le soujoud c'est pour Allah, etc. Et obéir au prophète. Donc à leur époque, le prophète c'était qui? C'était Moussa. À l'époque de Isa, c'était Isa. Et à notre époque, jusqu'à la fête des temps, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la question, ils ne peuvent pas nous la dire à nous, mais on peut la dire à eux. Puisqu'eux, ils ont vraiment inventé quelque chose que, si on les écoute, c'est nouveau. Parce que si on regarde même la Torah, même comme elle est maintenant, c'est-à-dire ce qui reste avec tous les changements qu'ils ont faits, ça ne parle jamais d'un fils de Dieu qui est venu pour sauver les êtres humains. Donc ça voudrait dire que tous les prophètes, tous les êtres humains avant, ben, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas connu Dieu comme il faut. Ça, c'est impossible. Donc on va continuer la lecture de la Risala, Inch'Allah. Yaqulu Shaykh, Hafidhahu Allah Ta'ala, أرسله الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم. صلى الله عليه وسلم. وَهُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَا. Voilà, c'est là qu'on est arrivé. وَهُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَا وَشَرِعَتُهُ وَكِتَابُهُ الْمُهَيْمِنُ عَلَى سَائِرِ الشَّرَائِعِ وَالْكُتُبِ النَّاسِخِ لَهَا وَالْكُتُبِ وَالنَّاسِخُ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم ختم الرسالة السابقة، فلا يجوز لإنسان أن يتعبد لله عز وجل باتباع الرسالة السابقة، سواء كانت رسالة موسى أو رسالة عيسى أو داود أو أي نبي من الأنبياء، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل أخيرا وشريعته نسخت الرسالة السابقة الأخرى، وكذلك كتابه ينسخ الكتب السابقة. كما قال هنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين. والآية الأخرى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني هذا الكتاب الذي هو القرآن يصدق الإنجيل والزبور والتوراة وصحف إبراهيم، وكذلك كل الكتب التي لا نعرفها، لأننا نعتقد أن الله عز وجل أنزل كتبا سماها لنا، وهي صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والزبور والإنجيل، يعني قبل القرآن. وكذلك نعتقد أن الله أنزل كتبا لم يسميها لنا، يعني لا نعرفها، كما نعتقد أنه أرسل رسلا سماهم لنا، وكذلك أرسل رسلا لا نعرفهم. إذن هذا الكتاب يصدق ما بين يديه، يعني المسلم يجد في القرآن أن الإنجيل كتاب فيه حق وأنه كلام الله، وكذلك يجد أن التوراة كلام الله، يعني يصدق أن الإنجيل والتوراة كلاهما نزلا من الله سبحانه وتعالى. ومهيمنا عليه، مهيمن يعني كلمة واضحة، معيمن عليه، يعني لا يجوز أن نتبع كتابا غير القرآن أو نقدم كتابا على القرآن. Donc ici il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des prophètes et sa loi et son livre il domine les autres lois et les autres livres. Donc il a cité deux versets, un verset qui dit Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous ou d'un homme parmi vous, mais c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire que c'est le dernier prophète et il n'y a personne qui viendra après lui comme prophète. Et dans l'autre verset il a dit nous t'avons descendu le livre par vérité qui déclare véridique ce qui était avant comme livre et qui domine sur les autres livres. Muhaymin. Donc c'est-à-dire que le Coran il affirme, il confirme les livres d'avant. C'est-à-dire qu'on trouve dans le Coran par exemple qu'Allah il a révélé les feuilles à Ibrahim et Zabur à Daoud et Taurat à Moussa et l'Injil à Isa. Donc c'est-à-dire le Coran nous dit que ces livres étaient bel et bien vrais et venus d'Allah. Donc il les confirme. Mais en même temps il est Muhaymin Ali, c'est-à-dire il est en priorité. On n'a pas le droit de suivre un autre livre en délaissant le Coran. Mais maintenant c'est le Coran qui prime parce qu'il abroge les autres révélations d'Allah. يعني كل هذا ربما يعني بعضكم يقول هذا كلام معروف يعني كلام سهل معروف، ولكن هذا يحتاج أن يكرر. أحيانا نسمع بعض المسلمين يقولون مثلا النصارى واليهود والمسلمون الله أعلم من في الحق. والله أنا سمعت هذا بأذني، أنا سمعت عن شخص يقول يعني إنسان يصلي فكانوا في المقبرة يعني دفنوا أحد أقربائهم وجاء طير، يعني جاء الطير تطير في السماء طائر بيضاء، فقالت إحدى بنات الميت هذا أبي، وهي في الأصل مسلمة تقول هذا أبي، والله هذا أبي. هذا المصلي يعني يعتبر فقيه الأسرة يقول الله أعلم، ربما يعني من في الحق، المسلمون اليهود النصارى أو البوذيون الذين يقولون تناسخ الأرواح الله أعلم ربما هم في الحق ونحن في الخطأ. هذا يعني هذا كلام يخرج هذا الرجل من الإسلام بدون أن يشعر بهذا الكلام، خرج من الدين الإسلامي. لأنك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا يتضمن أنك تعتقد وتتيقن أن رسالة محمد هي الرسالة الحق، وأنها ناسخة لكل الأديان السابقة التي نزلت من الله. فيعني هذا في يعني ناسخة للأديان التي جاءت من الله، يعني التوراة والإنجيل والزبور، فما بالك بالبوذية والهندوسية يعني التي لا ندري من أين جاءت إلا من أهواء الرجال. هذا كفر صريح، يعني الإنسان بهذا الكلام يخرج من الملة. وكذلك بعض الأمهات، يعني أحيانا تقول مثلا النصارى يعني مثلنا وهم على دين ونحن على دين لا فرق، ربما هم يدخلون الجنة ونحن ندخل النار. هذا خطأ، يعني ما أعظم خطأ، يعني ليس هناك خطأ أعظم من هذا، لأن مثل هذا القول يخرجك من الإسلام، يجعلك معهم، لأنك بعد أن تشهد أن محمدا رسول الله هذه الشهادة لها معنى. يعني إذا قلت النصارى ربما هم على الحق ونحن على الخطأ، إذن تناقض شهادتك أن محمدا رسول الله، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc je disais en arabe que toutes ces paroles-là elles sont claires. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous maintenant ils disent bon ça on connaît, c'est facile. Il y en a, on sait que la religion de Mohammed c'est la dernière religion, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais ça a besoin d'être répété. Ça a besoin d'être répété dans les mosquées, ça a besoin d'être répété dans les cours, ça a besoin d'être diffusé. Pourquoi ? Parce qu'on entend des musulmans qui disent, par exemple, moi je connais quelqu'un, il m'a dit dans sa famille, ils étaient à un enterrement, donc c'est des musulmans d'origine, il y en a des musulmans de la carte d'identité, comme il disait Cheikh Mohamed Aman al-Jami, muslim ou jinsiya ou al-bitaqa, muslim sur la carte, et muslim de nationalité. Ils vont à l'enterrement d'un mort, il y avait les filles du mort, elles étaient là, et la famille. Et d'un coup, il y a un oiseau blanc qui vient comme ça, il se met sur un arbre. Une des filles du mort, elle dit, ça c'est mon père. Wallah, c'est mon père, j'en suis sûr. Il y en a que, pour elle, son père il s'est transformé en oiseau quand il est mort. Il s'est réincarné, comme ils disent. Mais le pire, c'est pas ça. Il y en a, elle, c'est une ignorante, c'est clair. Le pire, c'est le faqih de la famille, celui vers qui tout le monde il se tourne quand ils ont une question dans la religion, qui est le seul à faire la salat, il dit... Allahu a'lam. Est-ce que nous on est sur la vérité ou les juifs ou les chrétiens ou les bouddhistes qui disent que les âmes elles se réincarnent? Allahu a'lam. Il y en a en disant Allahu a'lam, il croit qu'il est hakim, il croit qu'il est sage. Alors que non, dans ça tu dis certes Allahu a'lam, mais le haq c'est l'islam. Si tu dis peut-être que le haq il est chez les chrétiens, les juifs ou les bouddhistes, tu n'es plus musulman, tu es sorti de l'islam, même si tu ne t'en rends pas compte. Parce que ça fait partie des fondements. Et ça, c'est la signification quand tu dis « Ash'hadu anna Muhammadan Rasulullah ». C'est cette attestation-là qui t'a rendu musulman. Si tu la contredis, donc tu sors de l'islam. Et cette attestation, elle implique que tu saches et que tu crois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Et que son message, c'est la vérité qui est obligatoire, que tous les êtres humains doivent suivre de façon obligatoire. Et qui n'ont pas le droit de suivre un autre message que ça devant Allah Azza wa Jal, devant leur créateur. Si tu ne crois pas ça, donc ta shahada, elle est nulle. C'est qu'une parole que tu répètes. Peut-être, c'est vrai, peut-être c'est les chrétiens et les juifs qui sont dans la vérité. Ou alors ils disent, bon, bah, ça aussi, parfois c'est beaucoup les mamans qui disent ça. Elles disent, bah, parce qu'elles sont un peu niées, elles ont un peu de rahma pour tout le monde. Alors elles disent, bah, après tout, juifs, chrétiens, musulmans, bah, on est tous pareils, on prie tous, on va tous aller au paradis. On ira tous au paradis, c'est eux qui le disent. Maintenant, on dit c'est les musulmans qui vont au paradis. C'est ceux qui adorent Allah Azza wa Jal en lui obéissant. شرح الله صدره ووضع عنه وزره وجعل الذلة على من خالف أمره ورفع له ذكره فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه كفى بذلك شرفا وأعظم ذلك الشهادتين أساس الإسلام ومفتاح دار السلام عاصمة الدماء والأموال والأعراض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh qu'Allah Azza wa Jalla a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a effacé ses péchés. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui avait promis de son vivant que tous ses péchés étaient effacés. Et il a mis l'humiliation sur ceux qui contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a élevé la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit, wa rafa'na laka dhikrak. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Allah, on va parler en même temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme les ulama ils disent l'exemple le plus grand, c'est dans l'adhan. Et dans l'adhan que 5 fois par jour on dit dans les pays musulmans, on entend la ilaha illallah et après qu'est-ce qu'on entend? Le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus grand exemple donc c'est dans les deux attestations de la foi, shahadatain, qui sont la base de l'islam et c'est la clé de la demeure de la paix, c'est-à-dire du paradis. Et c'est ça qui protège le sang, l'honneur et les biens d'une personne. C'est d'attester la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa ma'na la ilaha illallah la ma'bouda bi haqqin illallah subhanah. Yani min aina jaa bi hadha al ma'na an la ilaha illallah ma'nahu la ma'bouda bi haqqin illallah subhanah. Yani al ilah fi al lugha al arabiyya ma'khudh min fi'l alaha ya'lahu. مثلا تقول هذا الإنسان يأله اللات يعني يعبد اللات يعني والإله معناه المألوه يعني المعبود فإذا قلت لا إله إلا الله معناه لا معبود إلا الله ولكن اللا هنا تسمى اللا النافية للجنس لا إله إلا الله وهذه اللا هذه الكلمة لا لها خبر لكن الخبر خبر لا محذوف يعني العرب إذا تكلموا واستعملوا هذه الكلمة يحذفون الخبر مثلا إذا قلت لا رجل في البيت ما المعنى لا رجل موجود في البيت هذا معنى أو تقول لا صلاة بغير وضوء ما المعنى لا صلاة صحيحة أو مقبولة بغير وضوء دائما هناك كلمة محذوفة لماذا حذفت لأنها معلومة إذن ما هو المحذوف وما هو الخبر في هذه الكلمة لا إله شيء إلا الله لا معبود هو إله إله هو معبود يعني إله مرادف معبود إذا قلت لا إله معنى لا معبود إلا الله هل المعنى لا معبود أو لا إله موجود إلا الله لا لأن المعبودات والآلهة موجودة بكثرة يعني الأصنام والآلهة وبوذا وآلهة الهندوس ويعني الأديان كثيرة والناس لهم آلهة حتى الله عز وجل في القرآن سماها آلهة فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فالله سماها آلهة فالآلهة المعبودات كثيرة هذا يعبد الحجرة هذا يعبد الشجرة هذا يعبد الجن هذا يعبد الولي فلان هذا يعبد سيدي فلان هذا يعبد المولى فلان إلى آخره المعبودات كثيرة هذا يعبد عيسى هذا يعبد الملائكة هذا يعبد النار هذا يعبد الشمس هذا يعبد القمر المعبودات كثيرة إذن المعنى لا يمكن أن يكون لا إله موجود إلا الله ولكن يعني يتبادر إلى أذهانكم أنكم يعني تقولون في أنفسكم نعم هذه آلهة لكنها يعني ليست آلهة حقا هي تسمى آلهة باعتبار أن الناس يعبدونها ولكن في نفس الأمر في حقيقة الأمر هل هي آلهة يعني هل تستحق العبادة لا إذن معنى لا إله إلا الله لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله يعني الذي يعبد بحق هو الله عز وجل أما المعبودات الأخرى نعم هي معبودات ولكنها معبودات باطلة كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يعني هي آلهة نعم ولكن آلهة باطلة أما الله فإله حق إله واحد إذا لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله يعني لا يجوز أن تعبد إلا الله سبحانه وتعالى وإن وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. Donc il a dit, en fait il a fait une parenthèse, il a dit c'est quoi la signification de la ilaha illallah, c'est il n'y a personne qui est adoré de bon droit sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. D'où il a tiré cette explication? C'est que quand on dit la ilaha illallah, premièrement le mot ilah, d'où ça vient le mot ilah? Ça vient du verbe alaha, qui est un synonyme du verbe abada, ça veut dire adorer. Et l'ilah, ça veut dire, c'est comme al-ma'lou, c'est-à-dire c'est un modèle qui veut dire un modèle arabe dans les mots, les lettres comment elles sont disposées, qui veut dire ma'boud, c'est-à-dire adoré. Donc tu dis il n'y a pas d'adoré sauf Allah. Mais les Arabes quand ils disent il n'y a pas d'eux, il y a toujours un autre mot qui est sous-entendu. Par exemple, les Arabes ils disent la rajula fil bayt, il n'y a pas d'homme à la maison. Sous-entendu, il n'y a pas d'homme présent à la maison. Ou alors par exemple il n'y a pas de prière sans l'ourdeau, sans les ablutions. Sous-entendu, il n'y a pas de prière acceptée sans l'ourdeau. Mais le mot, on n'a pas besoin de le dire parce qu'il est évident. Donc là, c'est quoi le mot qui a été enlevé? Est-ce que c'est mawjoud, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité qui existe ou qui est présente en dehors d'Allah? Sachant qu'une divinité, ça veut dire ce que les gens, ils adorent. Ça ne peut pas être ça le mot. Parce que si on regarde l'waqi'a, c'est-à-dire la réalité des êtres humains et leur état, leur situation, on voit qu'ils adorent beaucoup de choses. Celui-là, il adore le soleil, l'autre, il adore la lune, l'autre, il adore les étoiles, l'autre, il adore Issa, l'autre, il adore Maryam, l'autre, il adore les anges, l'autre, il adore les morts, Sidi Foulen, Maoula Foulen, l'autre, il adore les djinns, l'autre, il adore une pierre, l'autre, il adore une statue, l'autre, il adore un arbre. Donc, les choses que les gens, ils adorent, il y en a plein. On ne peut même pas les compter tellement il y en a. Rien que dans la religion hindoue, il y a des milliers de dieux qu'ils adorent. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam. Des milliers de dieux avec des têtes d'éléphants, etc. qu'ils adorent. Donc, les dieux que les gens ils adorent, il y en a plein. Mais tout de suite, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, oui, mais c'est des faux dieux. C'est-à-dire, ils les adorent, mais ils n'ont pas le droit de les adorer. Le seul qui a le droit d'être adoré, c'est Allah. Donc, c'est ça la réponse. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu qui est adoré de bon droit. C'est ça le mot qui est enlevé, qui est sous-entendu. Bihaq, c'est-à-dire de bon droit, en vérité, si ce n'est Allah. Et ça, on peut aussi le prendre du verset qui dit, il en est ainsi car Allah est la vérité et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est le batil, c'est-à-dire c'est le faux. Et Allah, Azza wa Jal, quand il parle de ce que les gens ils adorent, il les a nommés Aliha. Il les a appelés divinités, comme dans le verset où il a dit, leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Donc il les a appelés divinités. Pourtant vous allez me dire, mais en vrai c'est pas des divinités. Donc Allah les a appelés divinités dans le sens où les gens en ont fait des divinités. Les gens ils les adorent. Mais est-ce qu'en vrai ce sont des divinités? C'est-à-dire est-ce que réellement elles ont le droit d'être adorées? Non, parce que le seul qui a le droit d'être adoré c'est Allah. Donc voilà la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire que la signification, c'est que personne n'a le droit d'être adoré et ne mérite d'être adoré. Et le seul vrai Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, je vais faire une parenthèse à propos de la traduction. Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, avec cette explication qu'on vient de donner, ils disent donc qu'il ne faut pas traduire la ilaha illallah par il n'y a de divinité qu'Allah. Parce que ça ne rend pas le sens. Donc ils se forcent à mettre dans la traduction il n'y a pas de vraie divinité ou il n'y a nul qui est digne d'être adoré sauf Allah. Et ça, l'intention elle est bonne, parce que c'est vrai que quand on écrit comme ça la traduction de la ilaha illallah, ça donne le vrai sens. Mais on n'est pas obligé de faire ce adil kulfa, de s'imposer ça, puisque Allah azza wa jal, quand dans son livre il a descendu la ilaha illallah, et en arabe il aurait pu dire la ilaha haqqun la ma'bouda bihaq, et il a laissé la ilaha illallah. Donc en français on peut très bien laisser il n'y a de divinité qu'Allah. Sous-entendu, il n'y a pas de vraie divinité si ce n'est Allah azza wa jal. La traduction elle est bonne, parce qu'une divinité, si on revient au dictionnaire français, il y a beaucoup de sens. Un des sens de la divinité, c'est ce que les gens ils adorent. Donc quand tu dis il n'y a divinité qu'Allah, Donc ça veut dire que c'est le message il passe. Il n'y a rien qui a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. Même en français, c'est clair. On n'est pas obligé de se forcer à écrire « Il n'y a pas de vraie divinité qui est digne d'adoration si ce n'est Allah. » « Il n'y a de divinité qu'Allah », c'est la traduction de « La ilaha illallah ». Et après, ça mérite une explication tout autant que « La ilaha illallah » mérite une explication. « Wa arkanuha an-nafyu wal-ithbat » يعني أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له يعني إذا نظرنا إلى هذه الكلمة لا إله هذا نفي يعني تنكر ما يعبد من دون الله إلا الله وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وهذا موجود في القرآن بكثرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا مثل لا إله إلا الله يكفر بالطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله يعني يثبت العبادة لله سبحانه وتعالى أو قول إبراهيم الموجود في القرآن إنني براء مما تعبدون يعني يتبرأ يكفر بالطاغوت إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين يعني لا إله إلا الله يعني نفي وإثبات أما الإثبات وحده لا يكفي يعني إنسان يقول مثلا أنا أعبد الله لكن ربما يعبد معه آلهة أخرى إذن لابد أن يقول لا إله إلا الله يعني ينفي ويكفر بكل ما يعبد من دون الله وشروطها يعني شروط لا إله إلا الله يعني التي لابد أن تتوفر في هذه الكلمة حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى. J'ai dit en français l'affirmation. D'accord. Donc il dit les piliers de la ilaha illallah sont de deux. C'est l'affirmation et la négation. Ou plutôt la négation et l'affirmation. La négation, c'est quand on dit « La ilaha ». C'est-à-dire, je dis « Il n'y a pas de divinité ». Et après, j'affirme « Illallah », sauf Allah. Donc, je renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et j'atteste et je crois à Allah, azzawajal, et que c'est lui qui est adoré. Et qui est digne d'être adoré. Et ça, on le retrouve beaucoup dans le Coran. Donc, il y a deux exemples qui me viennent comme ça, c'est la parole de Ibrahim quand il a dit Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Donc c'est comme la ilaha illallah, c'est-à-dire il a dit je suis innocent de ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé. Donc il a renié toutes les divinités de son peuple sauf Allah et il a gardé l'adoration d'Allah. Ou alors le verset où Allah dit celui qui mécroit au tarout et qui croit à Allah. Celui-là, il s'est attaché à la corde solide. La corde solide de Mufassirun, il dit c'est la ilaha illallah. Donc il a dit d'abord celui qui mécroit au tarout et qui croit en Allah. Donc c'est comme la ilaha illallah. Parce que si une personne elle vient à dire moi j'adore Allah, ça c'est pas le tawhid. Il faut qu'elle adore Allah seule. Parce que peut-être elle dit elle adore Allah, mais à côté elle adore Lat, l'Uzza ou d'autres divinités. Donc tawhid c'est renier tout ce qui s'adore en dehors d'Allah et croire et adorer Allah seul. C'est comme une histoire qu'on m'a racontée. J'ai beaucoup d'histoires, mais ma'alish. C'est parce que c'est un danger. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a un danger dedans. Certaines toruq, ils disent, il faut des dhikr. Donc des askar, malheureusement, qu'Allah n'a jamais, à propos desquels Allah n'a pas descendu de preuves. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc c'est un ami, il était avec eux. Il l'a vu avec ses yeux, c'est pas une histoire. Ils disent « La ilaha, la ilaha, la ilaha » 100 fois. Seulement après, il dit 100 fois « Illallah, illallah, illallah ». Ah ben c'est trop... Ici, il meurt avant de dire « Illallah ». Donc il meurt en disant « La ilaha ». Parce que si tu dis juste « La ilaha », ça veut dire même « Allah Azza wa Jal », tu n'y crois pas. Donc il dit 100 fois « La ilaha » en bougeant sa tête. « La ilaha, la ilaha ». Et après, 100 fois, il dit « Illallah, 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 illallah. » Subhanallah. Quel est le meilleur homme qui a pratiqué cette religion? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il disait la ilaha illa ilaha illa? Après ça, il disait tout simplement la ilaha illallah. Et il disait la meilleure parole que j'ai dit moi et les prophètes auparavant, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc on coupe pas les askar comme ça. Ou alors le fait de dire Allah, 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 Allah. C'est pareil. Déjà en arabe, quand tu dis Allah, n'importe quel bédouin, on va le prendre du désert, on le met devant quelqu'un qui dit Allah, qu'est-ce qu'il va lui dire? Quoi? Allah quoi? T'as pas fini ta phrase. C'est comme si en français, je viens, je te regarde, puis je dis Allah. Tu vas me dire, bah quoi Allah? Dis-moi une phrase. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdu Lillah, La ilaha illallah. Ça, c'est des phrases, elles ont un sens. Mais Allah comme ça, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de phrase. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas de sens. Donc même en arabe, ce n'est pas une phrase. Et il n'y a pas été rapporté ni du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons qui disaient Allah, Allah, Allah. Ils disaient comme le prophète il nous a appris sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Et comment il les a appelés ces paroles-là le prophète? Al-Baqiyat al-Salihat. Et il a dit Ahabbul kalami ilallah. C'est les paroles préférées d'Allah. Donc pourquoi moi je vais dire, est-ce que j'ai mieux compris que le prophète ou que les sahaba pour que je dise Allah, Allah, Allah? J'ai pas mieux compris que, c'est impossible. Donc il faut être simple. Le prophète il nous a appris Askar et il faut s'y accrocher et pas en inventer des nouveaux. Après c'est pire quand il passe à l'étape suivante, il dit Hu seulement. C'est-à-dire, il disait, donc au début, ça c'est comme il le dit, il le raconte Cheikh Abd al-Razzaq, Hafidhahullah Ta'ala, il dit au début, donc le disciple, il dit, La ilaha illallah. Ça c'est quand il connaît rien. Après, le Cheikh, il va le faire monter. Maintenant que tu es monté, tu dis Allah seulement. Donc en fait, il croit qu'il est monté, mais meskini. Et à la fin, tu dis seulement, Hu, c'est-à-dire, Huwa, yani lui, yani Huwa, yani Allah Azza wa Jalla. Et où, où, où. Pour simplifier. Et il croit qu'il est monté encore. Il y en a, on rigole, mais malheureusement, tout ça, ça existe. Et on remercie Allah Azza wa Jal de ne pas faire ça. Et on lui demande qu'il nous garde sur, Inch'Allah, sur Sunna. Wa shurutuha. العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما عبد من دون الله. Là il a cité les conditions de la ilaha illallah, mais ça mérite un dars tout seul ou une risala complète. Donc il a dit les conditions de la ilaha illallah, premièrement c'est l'ilm. L'ilm, c'est-à-dire savoir ce que ça veut dire. Si une personne elle sait pas ce que ça veut dire, son attestation elle n'est pas acceptée. Al-yaqin, c'est-à-dire d'être sûr, de pas avoir de doute. Une personne elle dit par exemple la ilaha illallah, mais peut-être que quand même on peut adorer. Donc là, son attestation elle est fausse, puisqu'il n'a pas le yaqin. Al-qaboul, c'est-à-dire de l'accepter et d'accepter son sens. Al-inqiyad, c'est-à-dire de se soumettre à cette parole. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, qu'est-ce que ça implique? C'est pas juste que tu reconnais qu'Allah il faut l'adorer. Si tu reconnais qu'il faut l'adorer, faut qu'après tu l'adores toi aussi. C'est pas juste tu dis la ilaha illallah mais je fais rien du tout. Donc t'as pas l'inqiyad, tu t'es pas soumis à cette parole. Es-sidq, c'est-à-dire que quand je le dis je ne mens pas, c'est le contraire de le kadib, donc contrairement aux hypocrites, al-munafiqin, ou al-ikhlas, c'est le fait de ne la dire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-mahabba, c'est d'aimer cette parole et tout ce qu'elle implique. Et certains, ils ont rajouté une huitième condition qui est le fait de mécroire et de renier tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Donc il dit quelle est l'application, la réalité de cette parole? Donc c'est simple à comprendre. C'est de faire ce qui est obligatoire, ce qu'Allah a ordonné, et d'éviter ce qu'Allah a interdit. هذه جمل مختصرة في شهادة أن لا إله إلا الله، أما تفاصيلها فلا تحتمل هذه الكلمة اليسيرة. ولما كان البحث في حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من المناسب أن نورد طرفا مما تمس الحاجة إلى العلم به من ذكر نسبه ومولده ومبعثه ووفاته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شيء من أسمائه وخصائصه وصفاته الخلقية والخلقية صلوات الله وسلامه عليه. Donc il dit que pour parler de la ilaha illallah, ça demande un livre complet. Et que donc ce n'est pas le sujet de ce petit livre. Et que comme on parle de l'attestation, Shahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le shir donc, comme on parle de ça, on va citer certaines choses qu'on a besoin de savoir. Comme al-nasab, c'est-à-dire l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il a été envoyé, quand est-ce qu'il est mort. Et aussi comment il était physiquement, comment il était dans son comportement, quels étaient ses différents noms et ses spécificités, ses qualités. Donc ça, c'est ça le sujet des prochains chapitres. Faslun fi nasab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allah 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء في بعض القراءات من أنفسهم بفتح الفاء أي أنسبهم. Donc il a cité premièrement le chapitre, il parle de l'ascendance, c'est-à-dire l'origine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité le verset qui dit Allah a donné un bienfait aux croyants quand il leur a envoyé un messager venu d'eux-mêmes, min anfusihim, c'est-à-dire il est tiré de eux. Et une autre lecture qui vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit min anfasim, c'est-à-dire il est des meilleurs parmi eux, qui sont de la meilleure origine. Qui leur lit les versets d'Allah et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Wa fi sahih muslimin min hadith Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ليست حديثه للبروفيت عليه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. الله a élu كنانة dans la descendance de إسماعيل. Et il a élu قريش dans la descendance de كنانة. Et dans la descendance de قريش, il a élu les enfants de هاشم. Et il m'a élu moi dans, entre les enfants de هاشم. C'est-à-dire qu'il est la pulpe de la pulpe. À chaque fois, Allah Azza wa Jal, il élit des personnes, c'est-à-dire ce sont les meilleurs, entre guillemets, et lui, il est le meilleur du meilleur. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi sahihayn min hadith Abi Sufyan, radiallahu anhu, wa qissatihi ma'a Hiraql, wa su'alihi Hiraql lahu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa kana fima sa'alahu an qala kayfa nasabuhu fikum. قلت هو فينا ذو نسب إلى أن قال هرقل لأبي سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها هذا لفظ البخاري. Et là ensuite il rapporte l'histoire de Abu Sufyan رضي الله عنه. Donc ça c'est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Dans Sahih al-Bukhari c'est au tout début, si vous voulez regarder le hadith. Donc le hadith il est long, c'est l'histoire d'Abu Sufyan avec Hirakl. En fait, l'histoire, c'est que avant qu'il se convertisse, donc quand il était encore un des grands ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan, radiallahu anhu, il était vers la Syrie pour du commerce. Et quand Hirakl, c'est-à-dire le chef des Byzantins de Rome, il a entendu parler d'eux, il les a convoqués pour leur parler, pour leur poser des questions sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité beaucoup de questions à Abu Sufyan. À tel point qu'à la fin, Hirakl lui-même, il a dit, c'est un prophète. Il a dit, mais je ne pensais pas qu'il allait sortir de chez vous, c'est-à-dire de chez les Arabes. Et une des questions qu'il lui a posées, il lui a dit, quelle est son ascendance, Nasab, c'est-à-dire sa généalogie, comment elle est chez vous? Est-ce que c'est une bonne généalogie ou une mauvaise généalogie? Et il lui a répondu, Hua fina dhu nasab, yani dhu nasabin Hassan. Il lui a dit, il est chez nous considéré comme quelqu'un qui a une bonne ascendance, une bonne généalogie. C'est-à-dire ses pères sont des gens connus, reconnus et respectueux. Et à la fin, il lui a dit, Hirakl, il a dit à Abu Soufyan, il lui a dit, je t'ai demandé comment a été l'ascendance de cet homme, et tu m'as dit que c'était quelqu'un qui avait une bonne ascendance. Or, les messagers, c'est-à-dire les messagers d'Allah, sont toujours envoyés dans la bonne, dans les, c'est-à-dire avec une bonne origine, une bonne famille, entre guillemets. C'est-à-dire, il a dit, il fait partie des signes des prophètes, c'est qu'ils sont toujours des fils d'une bonne famille et d'une bonne lignée. فظهر بهذا أنه أكرم الناس نسبا فهو يعني أن يسوق النسب فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ونسبه صلى الله عليه وسلم إلى هنا معلوم الصحة يعني إلى عدن متفق عليه بين النسابين يعني علماء الأنساب لا خلاف فيه بينهم وما فوق عدنان مختلف فيه وعدنان من ولد إسماعيل نبي الله عليه السلام وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام. Donc là, il a cité tout le nasab, entre guillemets, pas tout, mais une partie du nasab du prophète. Donc il a dit, il est le fils d'un tel, d'un tel, d'un tel. Nous, on va citer en français les premiers. Donc son père, c'est Abdullah. Son grand-père, c'était Abdul Muttalib. Et son arrière-grand-père, c'était Hashim. Et le père de Hashim, c'était Abdou Manaf. Donc lui, il a cité jusqu'à Adnan. Et il a dit jusqu'à Adnan, les ulama de la généalogie sont tous d'accord sur l'ascendance du prophète jusqu'à Adnan, c'est-à-dire ils la disent tous de cette façon-là. Mais après Adnan, ils divergent. Ils ne sont pas tous d'accord sur la liste des ascendants du prophète jusqu'à Adnan, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Adnan. Et il dit Adnan, il faisait partie des descendants de Ismaïl. Et Ismaïl, c'est le fils de Ibrahim. Donc on voit aussi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas partie des Arabes, parce que les Arabes, ils sont de deux sortes. Les Arabes, entre guillemets, pure souche, qui venaient du Yémen. Non, pas Banu Najjar. Banu Najjar, c'est plus tard. Banu Jurhum, barakallahu fik. Donc, Qahtan et Jurhum. Et d'autres, les autres Arabes, c'est ceux qui descendent de Ismaïl. Et Ismaïl, lui, n'était pas arabe. C'est-à-dire, il était le fils de Ibrahim. Et Ibrahim n'était pas arabe. Il était. Il y en a, ils disent, ouais, Ibrahim, c'était un juif. Comment Ibrahim il va être juif, enfin, on va dire israélite, d'origine, alors que, voilà, alors que les enfants d'Israël, Israël c'est Yaqub. Yaqub c'est le petit-fils de Ibrahim. Donc les enfants d'Israël, c'est les descendants qui descendent des 12 fils de Yaqub. Donc comment le grand-père il peut être israélite? Il y en a, ça quand je dis, ils disent, je ne parle pas des juifs, je parle des musulmans. Yani, malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas ces choses-là. Yani, il ne faut pas dire, ouais, Ibrahim, c'était un arabe. Ibrahim, c'était un juif. Ibrahim, il était ni juif, ni arabe. Mais musliman hanifan. Mais ça, c'est sa religion. Mais sa race, entre guillemets. J'aime pas le mot race, mais son origine, c'était quoi? C'était l'Irak. Yani, il était d'Irak. Comme ils disent maintenant en français, Babylone. La Mésopotamie. Et son fils, donc Ismaïl. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, descend d'Ismaïl. Mais Ismaïl, je pense que vous avez dû le faire avec Kamel, quand il était petit, il s'est mélangé à Jurhum, donc au pur arabe. Et il s'est marié avec une arabe de Jurhum, donc il s'est, entre guillemets, intégré. Et il a parlé l'arabe. Voilà, ista araba. Et entre guillemets, il est devenu arabe. Donc une grande partie des arabes, ceux qui descendent de Ismaïl, en fait, ils descendent de Ibrahim. Donc ils n'ont pas une pure origine arabe, mais c'est les arabes, on appelle ça les Arabes arabisés, parce qu'ils étaient, ils sont descendants d'Ismaïl, qui lui s'est mélangé aux Arabes. Et les purs Arabes, c'est ceux qui viennent des deux tribus qu'on a citées. Et qui sont, selon ce qu'ils disent les historiens, originaires du Yémen. Wa ummu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya Aminatu bint Wahb bin ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ila akhir an-nasab al-mazkur sabiqan. فأبوه يلتقي مع أمه في جدهما كلاب بن مرة Donc, et sa mère, c'était Amina, la fille de Wahb ibn Abdemanaf, le fils de Zuhra ibn Kilab ibn Murra. C'est-à-dire que son père et sa mère, ils se rejoignent dans le grand-père, c'est-à-dire qu'ils étaient cousins. Ils se rejoignent, ils ont le même grand-père. Ouais, parce que moi j'ai traduit grand-père par Jed, l'ancêtre en fait. Parce que Jed, des fois en arabe, on peut dire pour le grand-père ou pour avant. Mouhim, ils se rejoignent dans Kilab ibn Murra. Donc Kilab ibn Murra, pour Amina, c'était... Donc son père c'est Wahb, son grand-père c'est Abmanaf, son arrière-grand-père c'est Zuhra, et son arrière-arrière-grand-père c'est Kilab. Donc son arrière-arrière-grand-père, c'est le même que pour Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut dire cousin éloigné plutôt pour être précis. وكان وهب أو أمه أبو أمه في ذلك الوقت هو سيد بني زهرة نسبا وشرفا. Donc il dit Wahb, le grand-père de Amina, le père pardon de Amina, lui-même il était un chef respecté dans sa tribu et il était un des plus nobles de sa tribu. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم شرف النسب من جهة أبيه وأمه. Donc le prophète, il avait une ascendance noble à la fois du côté de son père et du côté de sa mère. Donc on arrête là, Inch'Allah. Donc la fois prophète, on fera, la fois prochaine, on fera la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand est-ce qu'il a été envoyé, comment il a été envoyé par Allah, et sa mort, et ses noms, si on arrive jusqu'à ce chapitre-là. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.